recevons Frédéric Lacroix. Frédéric Lacroix, vous êtes connu pour vos prises de position publique sur la question du français au Québec. À ce sujet, vous avez écrit deux livres. Pourquoi la loi 101 est un échec chez Boréal en 2020 et Un libre choix, cégep anglais et étudiants internationaux, détournement, anglicisation et fraude au mouvement Québec français 2021. Vous avez publié des textes dans l'Action nationale, l'autre journal, le Journal de Montréal, notamment. Vous avez reçu le prix Prestige impératif français 2022. Vous avez reçu la médaille de l'Assemblée nationale, le prix du livre politique pour la loi 101 est un échec. Le prix André Laurendeau du meilleur article publié dans la revue L'Action nationale en 2017 pour votre article La brèche collégiale, publié dans le numéro d'octobre. Donc, première des choses, Frédéric Lacroix, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Avant de nous lancer là, dans les grandes questions sociolinguistiques, là, donc vous êtes devenu un des experts au Québec, là, si je peux dire, il est important de noter que vous gagnez votre vie dans un domaine autre que celui des questions de la langue et de la politique linguistique. Comment en êtes-vous venu faire vous prononcer sur la question linguistique au Québec?
Oui, donc c'est un intérêt qui remonte à loin, c'est-à-dire qui remonte du temps de mes études de maîtrise et de doctorat. Donc, moi, je suis originaire de la ville de Québec. J'ai fait mon baccalauréat à Québec et après, je suis allé à Montréal faire une maîtrise et un doctorat et je les ai fait à McGill. Donc, étant originaire de Québec, une ville où le français était vraiment la langue de culture, de référence, sans conteste, je suis passé à un milieu qui était totalement anglophone. Et ça m'a donné un choc parce que dans ce milieu totalement anglophone, j'étais quand même à Montréal. Chez moi, c'est ce que je pensais. Donc, il y a eu une espèce de... Ça m'a donné un choc dont je ne me suis jamais remis, si je puis dire, parce que depuis ce temps-là, je réfléchis à cette question. Donc, à cette question de la langue et de la culture aussi. Donc, c'est un intérêt qui remonte à il y a 25 ans. Je me suis... formé moi-même, si on peut dire. J'ai aussi une dette, une grande dette envers Charles Castonguay, qui est un professeur retraité de l'Université d'Ottawa, qui est bien connu aussi dans le domaine de la socio ou de la démo-linguistique, qui a répondu à mes questions, en fait, pendant 20 ans. Tu sais, j'ai été harcelé pendant 20 ans. Il a répondu avec une infinie patience, donc il a agi un peu comme un mentor à mon égard.
Mais pourquoi prendre position publiquement? C'est quand même risqué, là, selon France. C'est assez épineux comme question, la question linguistique au Québec.
Parce que j'estime que le sujet est souvent maltraité. Ce qu'on nous présente, c'est incomplet. Où il y a une espèce de censure politiquement correcte sur les propos qui sont tenus souvent. Le portrait qu'on nous fait m'a très rarement satisfait. Le portrait public qui est fait de cette question-là m'a souvent, très, très souvent, là, semblé boiteux. Donc, ce que je lisais dans les grands médias ne me satisfaisait pas. Ça ne correspondait pas à ma compréhension de la chose. Donc, j'en suis venu à écrire des textes moi-même parce que, dans le fond, j'écris ce que j'aurais aimé lire dans les grands médias. Je veux dire que je suis habité par un... Tu sais, ça a l'air prétentieux, mais je suis habité par un impératif de vérité. Donc, pour moi, la vérité sur cette question-là est très importante. Tu sais, j'essaie d'en arriver à dresser le portrait le plus clair et le plus proche de la dynamique réelle possible. Pour moi, c'est important et je pense que c'est essentiel à ce qu'on ait un débat public sain sur cette question-là. Donc, qu'on mette vraiment la dynamique linguistique à nu, puis que le public ait la compréhension la plus exacte possible de la chose. Donc, c'est vraiment ce qui me motive.
Ben justement, lançons-nous dans le vif du sujet, dans votre compréhension de la question, et je vous cite ici, là, vous avez déclaré « Le Québec est une crise linguistique et est dans une crise linguistique sans précédent dans l'histoire. » Ouais. La citation. Pouvez-vous nous décrire cette crise, ses causes, ses dynamiques et les grandes lignes structurelles de la crise?
Oui, donc le Québec, ça me semble évident là, que la crise linguistique que l'on traverse est pire que celle de Saint-Léonard. Si on se rappelle, là, la crise de Saint-Léonard, ça a eu lieu dans le milieu des années 60, dans la ville de Saint-Léonard, au nord de Montréal. Donc, c'était une ville autrefois vraiment nettement francophone, à majorité francophone écrasante, une petite banlieue dortoir tranquille où on parlait français. Puis au milieu des années 60, au début des années 60, les Italiens ont commencé à s'installer dans cette ville-là en masse parce que c'était pas cher, c'était proche de Montréal. Puis ce qui est arrivé, c'est que les francophones de cette ville-là ont vite compris qu'ils étaient en train de se faire minoriser, en fait. Ils s'installaient, puis ils souhaitaient inscrire leurs enfants dans les écoles anglaises. Donc, ils ne voulaient pas s'intégrer à la majorité locale francophone, mais ils souhaitaient s'installer là et s'intégrer à la majorité anglophone du Canada. Donc ça a déclenché une crise qui a duré 10 ans et qui a mené éventuellement à l'adoption de la loi 101 en 1977. Ce qui est intéressant, c'est que c'était une crise qui a été très circonscrite localement. C'est-à-dire que ça se passait à Saint-Léonard. Bien sûr, ça se passait un peu partout dans la région de Montréal, là, sur l'île de Montréal, mais c'était vraiment l'épicentre était Saint-Léonard. Là. C'est là que ça se passait. Donc, à l'échelle du Québec, c'était très, très localisé. Mais moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'on est dans une crise de Saint-Léonard à l'échelle presque du Québec au complet, là. C'est-à-dire toute la grande région de Montréal, la région métropolitaine de recensement de Montréal, et plonger dans quelque chose d'analogue. Et les grandes villes comme Québec, Sherbrooke, bon, la dynamique n'est pas pareille, mais il y a des choses analogues qui se déroulent. Donc, à mon avis, on est dans une crise de Saint-Léonard 2.0 à l'échelle du Québec. Cette crise-là, il y a deux volets dans mon esprit. Il y a une crise des mots linguistiques, puis aussi une crise politique. Donc, pour le premier aspect, la crise des mots linguistiques, je dirais que c'est une crise qui se prépare depuis au moins une vingtaine d'années. Donc, on se rappelle que le Parti libéral du Québec, en prenant le pouvoir en 2003, a doublé les seuils d'immigration.
Avec Jean Charest à l'époque.
Avec Jean Charest, donc, c'est une des premières choses qu'ils ont fait, c'est vraiment augmenter l'immigration de façon importante. Depuis 20 ans, depuis 20...
Ben, si on peut mettre des chiffres, la hausse à l'époque, on était passé de quoi? À 30, environ 50 000 par année, là, de mémoire?
Oui, on était de 30, environ 30 000 par année, puis on est passé. Bien sûr, ça fluctue, là, c'est pas des chiffres stables, là, mais je dirais que la moyenne des années 90, c'était autour de 25-30 000. Puis à partir des années 2000, on a commencé à hausser pour atteindre 50 000 vers la fin.
Permanent.
Vers le milieu des années 2000. Puis, à l'époque, l'immigration temporaire, qui est devenue aujourd'hui le type d'immigration dominant, était très marginale. Bien sûr, là, l'immigration temporaire a commencé à augmenter de façon incroyable. Là. Je manque de mots pour décrire la situation en immigration temporaire. En fait, ce qu'on voit, c'est une exponentielle, tu sais. Puis là, on n'a pas de signe que l'exponentielle va arrêter. Moi, je manque de vocabulaire pour décrire la situation en immigration temporaire. Mais si on...
Est-ce qu'on a un chiffre pour l'immigration temporaire aujourd'hui comparativement à l'immigration permanente début des années 2000?
On est rendu à 600 000 immigrants temporaires au Québec aujourd'hui.
Annuellement?
Non, au total. Les détenteurs de
au
permis.
Total.
Mais c'est...
Ah, pardon, oui.
On était à 80. Ben, là, je cite de tête, mais en 2016, on était, je pense, autour de 80 000. Donc, ça a augmenté, c'est vraiment là, exponentiel, l'augmentation. Puis là, on parle de 600 000 de personnes présentes sur le territoire, puis ça augmente, tu sais, ça augmente de 100 000 par année. Puis l'immigration permanente est de 50 à 65 000. Donc, l'immigration permanente, en fait, est devenue une composante minoritaire des flux migratoires totaux. Mais bon, si on met tout ça ensemble, les temporaires, les permanents, ce qu'on voit, c'est que depuis au moins 20 ans, on a une immigration vraiment massive, moi, que je qualifie de massive, c'est-à-dire que c'est un volume qui est un des plus élevés au monde. Puis ça, ce qu'on a vu, ça commence à avoir des effets vraiment très importants sur la dynamique linguistique, c'est-à-dire qu'au recensement de 2021, donc les derniers chiffres de recensement qu'on possède, on a vu que la langue parlée le plus souvent à la maison est la langue maternelle. Pour le français, c'est cassé la gueule de façon historique, c'est-à-dire qu'il y a eu un recul. Il y a eu le recul le plus brutal du français au Québec depuis la collecte des données de recensement en 1871. T'sais, on a chuté de 1,7 points puis 1,5 points. Puis, du côté de la langue maternelle, on est passé en bas du 80 %, ce qui n'était jamais arrivé de toute l'histoire du Québec. Donc là, on est vraiment en train de vivre les impacts de cette immigration, moi, que je qualifie de massive. C'est-à-dire que le français est pris dans une chute vraiment d'une brutalité sans précédent dans l'histoire. Là. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est jamais arrivé. Ce qu'on vit, c'est jamais arrivé. Puis c'est jamais arrivé à cette vitesse-là. Il y a eu des petites baisses du français. On n'est jamais passé en dessous du 80 % cependant. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'on a défoncé ça, puis on le fait à une vitesse vraiment ahurissante. On sait que le pourcentage de francophones est passé en dessous du 50 % à Montréal, du point de vue de la langue maternelle en 2006. Puis ça, ça a des effets structurants important, c'est-à-dire que moins tu as de francophones dans un lieu donné, moins l'intégration peut fonctionner parce qu'il y a juste plus de milieu intégrateur. Tu sais, ce milieu d'intégrateur-là devient de plus en plus faible. Fait que là, ce qu'on fait, c'est que Montréal, la proportion de francophones est vraiment en chute libre, puis on accélère l'arrivée d'immigrants qu'il faut franciser. Mais là, il y a de moins en moins de monde proportionnellement pour franciser ces gens-là. Donc, ce qui est prévisible, c'est ce qu'on voit, c'est que l'intégration puis la francisation fonctionnent de moins en moins. Puis au recensement de 2001, ben, tous les indicateurs sont au rouge. Tout ce qu'on peut regarder est négatif pour le français. C'est-à-dire même la connaissance du français au Québec a reculé. Vous savez, le fameux chiffre, le fameux 94% de connaissance du français qu'on nous assène tout le temps pour dire que tout va bien, 94% des gens au Québec ont une connaissance du français. Ceci ne nous renseigne nullement sur l'usage du français, qui est le paramètre important, mais passons. Bien, au dernier recensement, ce chiffre-là a reculé. Donc, ça, c'est la première fois depuis probablement les années 70. Fait que peu importe où on regarde, le français est en train de s'affaiblir. Puis pendant ce temps-là, ce qui est intéressant, c'est que l'anglais fait des gains. Donc, au dernier recensement, l'anglais comme langue maternelle et comme langue parlée le plus souvent à la maison a monté. La connaissance de l'anglais monte beaucoup chez les francophones. La connaissance du français recule chez les anglophones. Ça aussi, c'est une première depuis 40-50 ans. Puis ce qu'on a vu aussi, ce qui m'inquiète particulièrement, c'est que l'assimilation des francophones a vraiment augmenté de façon importante.
Vous voulez dire vers l'anglais, hein?
Vers l'anglais, oui.
Oui.
Donc, ça a fait un bond sur l'île de Montréal, vraiment notable. Puis ça, ce qu'on peut penser, c'est que là, ce qu'on a vu, c'est que l'assimilation collective là, des francophones au Québec est en train de vraiment prendre de la vapeur, prendre de la vitesse. Puis, si on assemble tout ce qui se passe, tous les indicateurs, le recul de la connaissance du français, l'augmentation de la connaissance de l'anglais, etc., moi, ce que je pense, c'est que le français est en train de devenir de plus en plus une langue seconde dans la région de Montréal. C'est-à-dire, c'est plus la langue commune ou la langue d'intégration, mais c'est en train de devenir vraiment une langue seconde, une langue qui est connue, encore largement connue, mais de moins en moins utilisée. Puis l'usage d'une langue, c'est vraiment le paramètre important pour déterminer la vitalité. Là. C'est pas la connaissance, c'est pas quelque chose de si important. C'est vraiment l'usage, c'est-à-dire est-ce que cette langue-là est employée dans une variété de situations de la vie quotidienne? C'est ça qui fait foi de sa capacité à garder des locuteurs.
Bien, si je peux citer certaines de vos critiques, il y en a, certaines personnes dans le débat sur la langue au Québec vont dire que la langue parlée à la maison, c'est relativement peu important, autant que l'usage, comme vous avez dit, de la langue dans l'espace public se fait en français. Est-ce qu'on voit un recul de l'usage du français dans la place publique également?
Tu sais, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une corrélation très, très forte entre la langue parlée à la maison puis la langue qui est utilisée dans l'espace public.
Il y a de nombreuses études de l'OQLF qui démontrent que la langue qu'on utilise dans l'espace public, c'est en grosso modo la langue que l'on parle à la maison. Donc, la corrélation est très, très étroite.
Donc, ceux qui disent que la langue parlée à la maison n'a pas d'importance, ils se basent sur quoi? On sait que c'est un continuum. Il n'y a pas de discontinuité entre ce qu'on parle en public très souvent et ce qu'on parle à la maison.
Deuxièmement, il n'y a aucune culture qui se transmet.
La langue parlée à la maison, c'est la langue qui est transmise aux enfants. Donc, c'est le vivier culturel.
Donc, on ne peut pas imaginer une société, par exemple, si on fait une réduction à l'absurde de cet argument-là, où les gens, personne ne parlerait français à la maison, puis français serait parlé dans l'espace public à 100%.
Puis c'est une impossibilité, c'est une absurdité.
Puis cette société-là, ne transmettrait pas le français comme langue maternelle aux enfants. Donc, il n'y aurait pas de matrice culturelle. Là. Ça serait fini. Donc, à mon avis, ces critiques-là sont faites seulement pour détourner le regard de ce qui se passe sur la langue parlée à la maison, qui est un paramètre des mots linguistiques très important, puis c'est reconnu de longue date. Donc, tous les chercheurs sérieux en démographie disent que la langue parlée à la maison, c'est un paramètre très important pour toutes ces raisons.
Moi, je pense que c'est des critiques qui sont non sérieuses de gens qui veulent détourner le regard de ce paramètre-là, qui ne va pas bien pour le français au Québec, mais qui va bien pour l'anglais par ailleurs.
Puis le deuxième aspect de la crise que j'aimerais aborder, c'est la crise. C'est une crise politique, je pense. Parce que pendant qu'on voit que la situation est de plus en plus catastrophique pour le français, puis moi, quand j'ai écrit « Pourquoi la loi 101 est un échec », en 2019-2020, les mots que j'ai utilisés, c'est que la situation du français est une catastrophe. C'est catastrophique. Puis déjà, à l'époque, ça me semblait clair. Mais depuis ce temps-là, avec l'augmentation vraiment exponentielle des niveaux d'immigration, là, je manque de vocabulaire pour décrire la situation. Parce que, tu sais, ce qu'on va voir au recensement 2026, à mon avis, ça va être une accélération du déclin du français. Là, je veux dire, le 2021, ça va avoir l'air de quelque chose de très modéré par rapport, à mon avis, aux chutes du français qu'on risque de voir en 2026, là. Ça va être, tu sais, je veux dire, c'est affolant ce qui se passe. Puis donc, la crise politique, c'est que notre élite me semble très largement incapable de faire un constat réaliste de ce qui est en train de se passer.
Est-ce qu'ils veulent le faire, j'ai envie de dire?
Est-ce qu'ils veulent le faire? Non, je pense qu'il y a une large partie de notre élite qui, tout ce qu'elle veut faire, c'est prétendre que les choses sont comme avant. Qu'on est encore en 1996, c'est une image que j'utilise parfois, là, tu sais, 96, on a perdu le référendum, mais ça va pas si mal quand même, hein. Tu sais, on vit bien au Québec, puis le français quand même à Montréal. Moi, j'habitais à Montréal à l'époque, tu sais, c'était pas désagréable. On avait l'impression que les francophones avaient leur place. Donc, je pense qu'une large partie de notre élite politique est pognée dans les années 90. Avec l'impression que, oui, tu sais, il y a des bémols, mais ça va pas si mal. Il faut voir le verre à moitié plein, Donc, ils nous servent ce genre de discours-là qui n'a plus aucun rapport avec la réalité actuelle, à mon avis. Puis, ce que ça cache, je pense, c'est une peur panique de voir ce qui se passe réellement. Parce que là, s'ils admettaient ce qui se passe réellement, Tout le programme tomberait, là. Il serait obligé de poser des vrais gestes. Tu sais, quand tu prends la mesure d'une situation aussi grave que celle qu'on vit, là, on ne pourrait plus faire dire on va juste faire comme avant, puis tu sais, on continue, puis tout va bien, nanana. Donc, il faudrait poser des gestes, à mon avis, des gestes de rupture, des gestes très importants, puis ça, notre élite politique ne veut absolument rien faire. On l'a vu, par exemple, avec le refus de M. Legault d'imposer la loi 101 au cégep. Moi, je trouve que c'est emblématique. Je pense que c'est là que le nationalisme de la CAQ est mort. C'est-à-dire que la démonstration de l'urgence de la loi 101 au cégep, je pense, a été faite.
Puis, malgré cela, au gouvernement, ils ont tranché à l'effet que, oh non, on ne la fait pas. Donc, pour moi, cette décision-là, c'est emblématique du refus de voir de la réalité de notre élite, puis de l'incapacité de poser des gestes structurants. Donc, moi, la crise politique, je trouve que c'est le décalage complet entre le discours qui nous est servi puis la réalité. Donc, si on observe la réalité, moi, je trouve que le décalage entre les deux n'a jamais été aussi grand, je pense, de l'histoire du Québec. Là, je peine à imaginer une autre situation, un autre moment où les élites ont été autant dépassées par la situation.
Ben, pourtant, c'est une crise vraiment unique dans l'histoire du Québec. Là. On sent que oui, il y a une certaine, je dirais, une frustration au sein là, de la populace, le grand public. Ça se voit dans les médias, là, il y a quelques relais, si je peux dire, qui vont, des soupapes, justement, là, qui vont, que ce soit des textes, des vidéos, des reportages qui démontrent que, bon, on sent les tensions monter, mais somme toute, on sent pas la... On est loin de des tensions du début des années 90, encore moins des années 60-70. Est-ce que c'est pas une crise qui est pas nommée, que les gens, même au quotidien, tentent d'éviter mentalement le plus possible?
Parce oui, tout à fait.
La crise semble très réelle, qu'on regarde les chiffres et qu'on prend le temps de s'y pencher et qu'on prend le temps de regarder autour de soi, en particulier à Montréal. Mais globalement, on n'a pas l'impression de la vivre, la crise comme telle.
Ben, moi, j'ai l'impression de la vivre. J'habite à Québec, puis j'ai l'impression de la vivre même ici. Puis quand je vais à Montréal, je veux dire, ça me saute aux yeux, là. Mais je pense qu'il y a... Tu sais, il y a le refus de nos élites de voir la réalité en face. Puis il y a aussi, oui, je pense malheureusement, le refus d'une partie de la population de voir la réalité en face. C'est-à-dire que chacun, c'est dans son petit confort... se restreint de plus à son petit univers de séries Netflix puis de trucs. C'est un petit univers contrôlé, puis on veut pas penser aux grandes questions. Puis il y a aussi derrière ça, je pense, un désespoir. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont simplement lancé la serviette puis qui pensent...
Il y a un sentiment d'impuissance.
Un sentiment d'impuissance très, très, très fort. Un manque de leadership politique, donc qui décuple ce sentiment d'impuissance-là. C'est ça, fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont lancé la serviette, tout simplement, qui ont abandonné, puis qui ils ont restreint leur univers mental pour exclure ces questions-là, parce que de toute façon, y penser ou s'en inquiéter, ça n'a pas d'impact. C'est hors de notre cercle de contrôle. Fait que ces deux tendances-là se nourrissent l'une l'autre. Là. L'élite politique n'a pas intérêt à aborder les choses de front si les gens aussi se mettent la tête dans le sable. Donc, c'est ça. C'est un peu une situation... c'est une situation malheureuse. Puis moi, la base de mon idée de base, c'est qu'il faut vraiment briser ça. Puis il faut vraiment... en parler ouvertement, tu sais, puis forcer la classe politique à poser des gestes, à regarder les choses en face puis à poser des gestes. Puis ça peut seulement se faire si nous, individuellement, tu sais, on regarde les choses en face puis on n'hésite pas, on cesse d'avoir peur d'en parler.
Je voulais passer à la loi 101, mais en fait, vous avez mentionné tout de suite l'extension de la loi 101 au cégep. En fait, je vais parler de votre livre, pourquoi la loi 101 est un échec, mais vous avez mentionné l'extension de cette loi au cégep comme étant essentielle et elle n'a pas été faite, bien sûr. Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion?
Ben, je pense que l'extension des clauses scolaires de la loi 101 au cégep, en fait, c'est une mesure qui aurait dû être adoptée dès le début des années 2000. T'sais, avec la commission La Rose à l'époque, ça avait été enterré à une vitesse record, cette question-là. Alors que déjà à l'époque, on savait que les choses n'allaient pas rondement. Là. Puis la commission La Rose, ça a été une commission faite expressément pour enterrer les questions des mots linguistiques puis prétendre que tout allait bien. Donc, ils ont T'sais, ils ont vraiment tout fait pour pas parler de la situation démographique puis de ce qui s'en venait, qui était prévisible. Puis ils ont enterré la loi 101 cégep. Ouais, mais je pense que dès cette époque-là, dès il y a 25 ans, on aurait pu dire on a assez d'informations pour savoir en fait que la loi 101 ne fonctionne pas puis que ça prend la loi 101 au cégep minimalement. Puis si on l'avait fait à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui, on ne serait pas autant dans le trouble.
Mais pouvez-vous nous décrire concrètement comment la loi 101 ouais. échoue? Comment on aurait, et donc pourquoi on devrait l'étendre aussi au cégep? Hein?
Bien, si je peux résumer la chose, c'est que depuis que la loi 101 a été adoptée en 1977, on a vu les transferts linguistiques des allophones vers le français augmentaient. C'est-à-dire que les allophones, donc quelqu'un d'une langue maternelle tierce, passait, tu sais, il parlait français à la maison de plus en plus fréquemment, donc au Québec. Donc, il faisait un passage d'une langue tierce vers le français. Puis ça, cette proportion-là augmentait. Donc, ça, c'est ce qui a mené à l'idée que la loi 101 est un succès éclatant. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. On a juste à s'asseoir là-dessus, puis attendre, puis éventuellement, tous les allophones, tu sais, ou une très grande proportion d'allophones vont parler français à la maison, puis on aura déclaré victoire. Donc, c'est ce qu'on nous a répété pendant...
Est-ce que vous vous rappelez des taux? Les taux de conversion, là, mais vers le français
années...
allophones avant et après la loi 101 en 77?
Dans les années, début des années 70, on était autour de 35 %. Là, aujourd'hui, on est autour de 59-60 % des allophones qui font des transferts linguistiques vers le français. Donc, 60 %, mettons, j'arrondis à 60, là, on peut se dire c'est un succès éclatant. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les anglophones au Québec sont seulement 8,8 % du point de vue de la langue maternelle. Donc, en fait, il y a encore 40 % d'allophones qui font des transferts linguistiques vers l'anglais. Donc, c'est 4 à 5 fois la proportion d'anglophones. Puis, simplement pour qu'il y ait une stabilité des poids démographiques des francophones et des anglophones et des francophones, il faudrait que les taux de transfert des allophones vers le français soient autour de 90-92 %. Fait qu'on est très, très loin. Il nous manque un 30 %, un 30 points, là, pour juste simplement atteindre la stabilité. Là, la loi 101, ça commence à faire un bail qu'elle a été adoptée. Donc...
Parce que le taux stagne aujourd'hui. Il était à peu près à 60 puis il ne bouge plus.
Bien, il monte de plus en plus lentement. C'est ce qu'on a vu au dernier recensement. Et là, ça dépend de la façon dont tu le calcules aussi, parce que sur certains calculs, il est déjà en train de descendre. Mais moi, ce que je pense, c'est que on est au pic... proche du pic, puis il va redescendre bientôt. Parce que, par exemple, les francophones s'anglicisent de plus en plus. Puis moi, je vois pas pourquoi les allophones se franciseraient pendant que les francophones s'anglicisent. Mm-hmm. Tu sais, c'est pas logique, là. Eux autres, ils vont bien observer la situation puis voir que, tu sais, les francophones s'anglicisent, ben moi aussi, je vais angliciser mes enfants. Tu sais, donc, ça va pas tenir longtemps, ça va reculer. Mais ce que je voulais dire avec ce paramètre-là, c'est que ça a été beaucoup de la poudre aux yeux parce que ce qu'on a compris aujourd'hui, c'est que ce qui a causé la hausse des suspicions linguistiques des allophones vers le français, en fait, c'est la politique d'immigration et non pas la loi 101. La loi 101 y est pour très peu. C'est la politique d'immigration qui, en sélectionnant des francotropes, donc des gens susceptibles de faire un passage linguistique vers le français ou qui l'avaient déjà fait, en fait, en France ou au Maghreb. Donc, on a sélectionné beaucoup de gens comme ça. Avec la politique d'immigration, ils ont fait venir. Donc, c'est des gens, par exemple, qui parlaient arabe comme langue maternelle, mais qui avaient fait un passage vers le français, soit en France, soit au Maghreb même. Là, nous autres, on les fait venir, puis là, on mesure un transfert linguistique, puis on se dit c'est merveilleux, la loi 101 est super efficace, mais en fait, ce transfert-là, linguistique-là, a eu lieu au Maghreb ou en France. Donc, ça n'a rien à voir avec l'efficacité de la loi 101. Puis quand on mesure la loi 101, c'est, tu sais, la proportion des transferts attribués à la loi 101 est remarquablement petite, en fait. Donc, en fait, les clauses scolaires de la charte ont un impact très faible sur les transferts linguistiques. Puis ça, ça ne correspond pas à ce qu'on nous a répété pendant des décennies. Donc, je pense que c'est quelque chose de, qui est dur à admettre pour beaucoup de personnes. Mais c'est vraiment la politique d'immigration qui a fait la majorité du travail. Puis ben, ça, c'est la politique d'immigration historique. Mais là, ce qu'on a vu depuis à peu près une dizaine d'années, c'est que la sélection nous échappe de plus en plus. Maintenant, la politique d'immigration, c'est surtout des immigrants temporaires qui sont sélectionnés à Ottawa ou par des cégeps, des universités directement ou par des employeurs. Donc, la proportion d'anglophones ou d'immigrants connaissant seulement l'anglais dans l'immigration a explosé dans les 10 dernières années. Donc, puis là, on n'a pas mesuré encore l'impact de ça dans les recensements. Mais je pense que ce qu'on va voir, tu sais, en 2026, c'est un brutal recul des transferts linguistiques vers le français parce que la politique d'immigration, en fait, nous échappe de plus en plus. Puis là, c'est une histoire un peu complexe, la politique d'immigration, mais tu sais, les temporaires ne sont pas du ressort de Québec, c'est du ressort d'Ottawa. Mm-hmm. Puis Ottawa se fiche complètement de la connaissance du français à peu près, là. Donc, on a beaucoup, on a à peu près le tiers des immigrants temporaires qui ne connaissent pas le français puis qui travaillent en anglais. Fait que là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'immigrants qui, tu sais, la proportion de gens qui travaillent en anglais au Québec augmente rapidement. Puis ça, c'est dû largement à l'immigration temporaire qui est hors de contrôle. Donc, si j'essaie de ramener tout ça ensemble, c'est que on s'est illusionné pendant longtemps sur la puissance des clauses scolaires de la 101. Ces clauses scolaires-là, ce qu'elles font en réalité, c'est qu'elles donnent une connaissance du français comme langue seconde aux immigrants qui sont scolarisés en français. Mais souvent, ces gens-là ne vont pas adopter le français comme langue première. Ça va être une langue seconde. Puis, bien sûr, ils peuvent parler une langue tierce comme langue première, mais ce que je veux dire par langue seconde, c'est que souvent, l'anglais va passer devant le français. Mm-hmm. Même si ces gens-là parlent 2, 3, 4 langues, souvent, ça va être la langue maternelle, l'anglais. L'anglais va devenir leur langue de référence. Puis, ils vont parler français. Souvent, ils vont parler très bien français. Ils vont avoir une excellente connaissance s'ils ont été scolarisés en français. Mais c'est une langue qu'ils vont assez peu utiliser. Puis, on le voit. Parce que les clauses scolaires s'arrêtent en secondaire 5, puis ce qu'on voit, c'est qu'au cégep, à Montréal, dès qu'il y a des cégeps anglais, en fait, qui sont accessibles, les immigrants quittent vraiment de façon massive vers les études en anglais. Fait que le phénomène est très, très présent. Puis ça indique l'orientation culturelle, si on veut. C'est-à-dire que les clauses scolaires, c'est comme une immersion française forcée. Puis il y a un grand nombre d'immigrants que ça n'intéresse pas. Ils ne veulent pas s'intégrer au groupe francophone. C'est que dès que les clauses scolaires arrêtent, ils s'enfuient dans le système anglophone, donc au cégep. Puis s'ils s'inscrivent au cégep en anglais, c'est presque automatique qu'ils vont s'inscrire à l'université en anglais. Puis une fois qu'ils ont fait l'université en anglais, ils vont travailler en anglais, c'est presque certain.
Donc, j'explique que Dawson est le plus gros cégep au Québec aujourd'hui.
Dawson est le plus gros cégep. Concordia a écrasé l'UQAM. McGill est l'université la plus prestigieuse au Québec et ramasse la crème de tous les étudiants, etc. T'sais, on a un système où l'anglais est vraiment au sommet des études postsecondaires. Puis le français est vraiment une langue qui est comme secondarisé dans le système postsecondaire. Donc, on a un problème, je dirais, quantitatif au postsecondaire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de gens qu'on a voulu franciser qui nous échappent à cette étape-là, puis qui vont devenir, en fait, des anglophones. Puis nous autres, on finance, les fonds publics financent leur anglicisation sans limite. On appelle ça le libre choix. Donc, il y a un problème quantitatif, il y a un problème qualitatif, c'est-à-dire que le système de langue française est moins prestigieux, moins bien financé que le système de langue anglaise. Donc, on est vraiment pris dans un cercle vicieux où, si quelqu'un va étudier à McGill, comme j'ai fait, ben là, c'est vu comme étant très prestigieux et d'excellentes études qui t'ouvrent l'avenir. Si tu vas à l'UQAM, t'es un peu un loser, tu sais. Puis ça, c'est les fonds publics, en fait, québécois qui permettent ça. C'est ça qui est incroyable, là, moi, qui me semble inadmissible. C'est les fonds publics qui... tu sais, c'est tout le régime juridique, mais aussi le financement des études qui fait qu'on a fait du français une langue qui est comme secondarisée au post-secondaire. La chose est vraiment éclatante à Montréal. À Montréal, c'est évident, là, tu sais, que le français est en perte de vitesse, mais c'est hallucinant. Mais ça se déroule partout où il y a des institutions anglaises, en fait. Partout où il y a un cégep anglais, par exemple, à Québec, on le voit aussi. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont étudier à Saint-Lawrence. Puis ça, c'est le cégep de l'élite. Puis ces étudiants-là, ben, il y a une proportion importante après ça qui s'en va étudier à Concordia puis McGill, même s'ils pourraient aller à l'Université Laval à moindre coût. Ils s'enfuient dans le système, ils continuent dans le système anglais. C'est la même chose à Sherbrooke, t'sais. C'est la même chose partout où il y a une offre d'études postsecondaires en anglais. Donc, ce qu'on fait, en fait, avec les études postsecondaires en anglais, c'est qu'on annule la francisation qu'on voulait faire avec les cours scolaires de la leçon au primaire, au secondaire. Donc, on joue, en fait, le cégep et l'université contre le primaire et le secondaire. Puis, on annule, en fait, les effets que pourraient avoir les cours scolaires de la loi 101. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à l'époque, il y avait assez peu d'étudiants qui se rendaient au cégep, mais aujourd'hui, c'est
la norme.
C'est la presque. Norme. Puis
à l'époque, c'est la minorité.
Oui. Oui, c'est ça. Donc, ces études-là étaient moins importantes. Donc, dans l'esprit des concepteurs de la charte, les imposer jusqu'en secondaire 5, ça ramassait vraiment l'essentiel du bassin de population. Mais là, c'est plus vrai. Puis on ne s'est pas adapté à ça. T'sais, mentalement, on est encore pris dans une espèce de cadre mental où les gens arrêtent leurs études en secondaire 5. Je parlais du décalage entre le discours politique et la réalité. Puis ça s'en fait partie. C'est-à-dire que les études universitaires, c'est le tiers à peu près d'une classe d'âge. Le cégep, c'est 65, 70 % 75. Donc, c'est des chiffres très importants. Mais notre cadre juridique fait comme si on était encore dans les années 70.
Donc, je me projette dans l'avenir, purement politique fiction ici, mais il semble y avoir peu de volonté politique pour étendre la loi 101 au cégep, malgré les raisons que vous avez mentionnées. L'élite de plus en plus anglicise, même l'élite francophone, on va en parler, vous l'avez mentionné, là, on va peut-être en parler après un peu plus en long et en large, mais dans 10 ou 20 ans, quand le français aura peut-être décliner davantage et que les francophones eux-mêmes ont peut-être plus, la passion et l'envie de défendre le français de façon aussi vigoureuse, je peux dire, qu'en les dernières décennies, on ne pourrait pas voir non seulement la loi 101 qui ne s'étendrait pas au cégep, mais l'inverse, on commencerait à dire pourquoi ne pas abolir la loi 101 au secondaire? Je sais qu'il y a beaucoup de francophones qui, surtout dans la région de Québec, là, je fais rapide ici, là, disons, mais je généralise, je devrais dire, mais qui étaient ou qui sont contre la loi 101 parce qu'ils aimeraient bien envoyer leurs enfants au primaire et au secondaire en anglais avant même le cégep.
Ouais.
Ce serait pas impossible dans un futur plus ou moins loin, là, je dis horizon 10 à 20 ans, où le débat va passer de est-ce qu'on devrait étendre la loi 101 au cégep à est-ce qu'on devrait abolir la loi 101 au secondaire?
Tout à fait. Moi, ça sera pas dans 20 ans, là, ça va être dans 20 ans. Parce que moi, de mon point de vue, le Québec est maintenant plongé dans l'assimilation collective. Là. Ce qu'on est en train de vivre, c'est l'assimilation. C'est ce qu'on nous disait qui allait peut-être un jour arriver, éventuellement, de façon lointaine. C'était quelque chose d'épeurant, mais c'était tellement loin qu'il ne fallait pas la peine de s'inquiéter pour ça. Mais ce qu'on voit, moi, ce que je vois, c'est le basculement est en train de se faire, puis il est très, très rapide. Donc, oui, la loi 101 va sauter là, si, à moins d'une prise de conscience et de l'adoption, d'un changement de cap, ça va sauter. Puis, on va être rendu comme la Louisiane beaucoup plus rapidement qu'on pense. Là. Ça ne va pas prendre 100 ans. Là.
C'est un peu ça. Psychologiquement, j'ai l'impression qu'on dit que ce n'est pas très grave. Du moins, on vit avec les aléas de la question linguistique en se disant, bon, si jamais ça devait vraiment aller mal, je peux dire, ça sera dans 100 ans. Donc, c'est tellement loin qu'on l'a discuté à croire ou à comprendre que c'est vraiment pas si loin que ça. Un basculement rapide pourrait bien prendre place.
Ce basculement-là est en train de se faire. C'est ça qu'il faut comprendre. c'est pas quelque chose qui va arriver dans l'avenir. C'est en train de se faire. Mmh. À Montréal, c'est en train de se faire. Les chiffres du recensement 2021, qui sont en retard sur la réalité, là, à mon avis, sont clairs. C'est-à-dire que les jeunes francophones s'anglicisent. Puis plus ils sont jeunes, plus l'anglicisation est élevée. Puis ça, c'est quelque chose de clair. Là. On a vu ça au Nouveau-Brunswick, chez les francophones, tu sais, l'assimilation débutée. Puis quand le train quitte la gare, tu sais, il ne s'arrête pas.
On ne peut plus l'arrêter, oui.
Pas ça. Comment l'arrêter. C'est-à-dire qu'au Nouveau-Brunswick, c'est arrivé, le train a quitté la gare, puis il a ralenti quand le Nouveau-Brunswick a eu le statut de province bilingue en 68. Donc, le taux d'assimilation a baissé à ce moment-là. Puis c'est la seule fois, je pense, dans l'histoire du Canada que c'est arrivé. Donc, tu sais, l'assimilation, c'est pas un fantasme lointain, c'est en train de se passer. Ça se déroule, en fait, depuis plusieurs années. Puis là, c'est en train de gagner en vitesse de plus en plus. Donc, moi, c'est ça que je pense que, tu sais, la fenêtre pour agir, elle est rendue très courte. On n'a plus 20 ans là, pour agir, je pense, si on souhaite faire quelque chose.
Oui, parfait. Vous avez mentionné ce que vous avez nommé l'écrémage, on en parlait un peu. L'écrémage là, qui prend place alors que les meilleurs étudiants provenant de l'école secondaire francophone finissent par aller au cégep anglophone, là, je vous cite ici. Pour un anglophone qui s'inscrit au collégial français, 27 francophones s'inscrivent au collégial anglais. Vous avez décrit la dynamique un peu, mais vous aviez aussi discuté du fait là, que, je pense, de mémoire, vous aviez dit que les techniciens vont parler français, mais les gérants, les ingénieurs et les gestionnaires vont parler anglais. Et de plus en plus, c'est déjà en place. Ouais. Pouvez-vous expliquer un peu ce phénomène qui, à mon avis, passe un peu sous le radar, si je peux utiliser l'expression, des grands médias?
Oui, bien, tu sais... Lors de la commission Laurando-Dunton, dans les années 60, cette commission-là avait mis en évidence une structuration linguistique des tâches, des fonctions dans le monde économique. C'est-à-dire que les petits emplois mal payés de techniciens étaient surtout attribués aux francophones. Les emplois d'ingénieurs, de cadres, de supervision, de scientifiques étaient occupés de façon proportionnelle, beaucoup plus par des anglophones. Puis ça, c'était lié au taux de diplomation, c'est-à-dire que les francophones étaient sous-diplômés de façon extrêmement grave, tandis que les anglophones étaient surdiplômés. Donc ça, c'est la commission Parent, puis la commission Laurando-Dunton, toutes les données convergeaient. C'était une des volontés de la Révolution tranquille de normaliser le taux de diplomation des francophones. Puis en normalisant, en ouvrant les portes des études spécialisées, post-secondaires aux francophones, on augmenterait les taux de diplomation puis on permettrait aux francophones d'occuper des postes plus intéressants, plus rémunérateurs, etc., donc de grimper dans l'échelle sociale. C'est vraiment le fondement de la Révolution tranquille. C'est vraiment ce qu'ils souhaitaient faire en premier. Puis, donc, on a fait ça. On a ouvert les cégeps, on a ouvert l'UQAM, en fait, pour donner l'accès aux études universitaires aux francophones. Au tournant des années 70, on a fait vraiment un gros brassage de structures. Puis, ce qui est particulier, c'est que toute la réflexion s'est arrêtée là, tu sais. Il n'y a pas eu de suivi vraiment là-dessus. Puis quand on regarde les chiffres aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les francophones, en fait, sont toujours sous-diplômés par rapport aux anglophones. Si on regarde au niveau du doctorat, par exemple, proportionnellement, il y a deux fois plus d'anglophones que de francophones qui détiennent un doctorat. Ça, c'est particulier quand on pense... C'est
proportionnellement ou brut?
Proportionnellement. Évidemment, okay, ça ne peut pas être des chiffres bruts, mais tu sais, c'est le proportionnel qui compte. À mon avis, si on cherche à comparer les taux de diplomation, là, ce qui est un taux relatif. Donc, deux fois plus. Puis au niveau du bac, c'est 40% d'anglophones de plus qui ont un baccalauréat que les francophones. Puis ça, c'est les chiffres de 2016. Donc, tu sais, au Québec, on est dans un univers mental où la Révolution tranquille, c'est la chose qui a normalisé notre situation. T'sais, la révolution tranquille est passée par là, puis depuis ce temps-là, on est comme un pays normal, on est normal. T'sais, on a rattrapé tout notre retard, puis tout va bien. C'est le discours qu'on entend, t'sais, qu'on se fait, on baigne dans ce discours-là. Puis si on regarde la réalité des chiffres, ben, c'est pas vrai du tout. T'sais, la révolution tranquille, oui, on a fermé un peu l'écart, mais l'écart est encore très substantiel. Donc, si on regarde du point de vue des taux de diplomation, t'sais, l'écart est quand même hallucinant. 40 % au point de vue du bac, là, c'est pas rien. Puis, donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a encore une structuration linguistique du travail. Puis, on le voit, cette dynamique-là, à l'œuvre dans les cégeps. Où, les cégeps anglais à Montréal, par exemple, sont des collèges préuniversitaires. T'sais, à 70 % dans les cégeps anglais, c'est des étudiants préuniversitaires. Tandis que c'est moins de la moitié dans les cégeps français. Donc, ce qui se passe, c'est que les cégeps anglais, c'est vraiment les cégeps réservés à l'élite. Donc, on forme les gens qui vont aller à l'université après, puis on forme assez peu de techniciens. Tandis que les cégeps français, ils forment beaucoup plus de techniciens, puis proportionnellement moins de gens qui vont aller à l'université. Donc, ce qu'on voit, là, c'est que la structuration linguistique du travail est encore en place. On ne l'a pas effacé. La révolution tranquille, tu sais, n'a pas atteint son objectif de ce côté-là, à mon avis. Puis, ce qui est particulier, c'est qu'on n'en parle jamais dans tous les débats. Mm. Tu sais, dans les médias, c'est quasiment jamais évoqué. C'est, tu sais, moi, j'ai calculé les chiffres, je me suis rendu compte de ça. Je me dis, mais tu sais, comment ça que c'est pas... Il n'y a pas une commission d'enquête. Comment ça qu'il n'y a pas des mesures pour fermer cet écart-là? Le seul endroit où j'ai trouvé une référence claire à ça, c'est dans le rapport d'étape, dans le rapport sur... j'ai pas le titre en tête, là, mais c'est John Porter et Lise Bissonnette qui ont écrit un rapport en 2013 sur une loi cadre pour les universités. Puis là, c'est évoqué noir sur blanc dans ce rapport-là. La sous-diplomation des francophones, puis surtout, le fait qu'on canalise des francophones vers des certificats à l'université. Donc, la diplomation par certificat dans les universités de langue française est quelque chose de très, très, très important, alors que les certificats sont presque inconnus dans les universités de langue anglaise. Donc, il y a une disproportion vraiment majeure. Puis ça, c'est jamais évoqué publiquement, quasiment.
Vous mentionnez aussi que la loi sur les langues officielles est peut-être la seule loi linguistique qui n'est pas basée sur un principe territorial comme les autres lois similaires dans le monde, pour ne pas mettre le français à l'abri justement. Comment la loi sur les langues officielles ne protège pas le français?
Oui, ça c'est toute une autre histoire aussi, la loi sur les langues officielles.
On n'en parle plus, on n'en parle plus du tout. En fait, il y a un livre dernièrement que j'ai quelque part, là, mais que je n'ai pas encore lu... qui mentionne la chose.
Oui, le livre d'Éric Poirier, c'est ça?
D'Éric Poirier, exact. Ouais. Je ne l'ai pas encore lu. Je suis allé au lancement, mais bon, il faudrait que je m'y mette. Mais c'est une question qui, encore une fois, soit est inaudible, soit personne n'en parle, ou soit ça passe carrément sous le radar, comme on dit.
Ben, je pense qu'une des raisons, c'est que la loi sur les langues officielles, c'était une idée utopique de la commission Lurando-Danton, justement. Où on voulait faire du français une langue officielle puis qu'un francophone se sente à l'aise partout au Canada. C'était l'idée de Pierre-Elliott Trudeau. Cette loi-là est un échec monumental. Puis plus personne n'y croit. Donc, la loi sur les langues officielles, en fait, c'est mort. Dans mon esprit, puis je pense dans l'esprit de pas mal tout le monde au Canada, cette loi-là est morte. L'idée derrière ça est morte, mais on n'a juste pas officiellement signé l'acte de décès. Puis cette loi-là, ben, pour faire une histoire courte, c'est basé sur le principe de personnalité, c'est-à-dire que ça postule que la langue, c'est le résultat d'un choix individuel. Ça, c'est la grande idée à Pierre-Elliott Trudeau. Donc, c'est pas attaché à une culture ou au collectif, c'est vraiment une base strictement individuelle. Tu peux décider de parler français ou anglais, c'est ton choix. Puis à ce moment-là, le fédéral va t'accommoder en t'offrant des services en anglais, en français si tu souhaites parler français. Toute la loi est construite comme ça. Donc, elle ignore complètement le fait qu'une langue s'est attachée à une culture, s'est attachée à une collectivité. Puis, tu sais, Pierre-Éliott Trudeau a fait ça spécifiquement, justement, pour isoler, tu sais, pour ne pas reconnaître de droits collectifs au Québec. Donc, pour atomiser la chose sur une base individuelle. Puis l'idée, tu sais, si on creuse derrière ça, Marc Chevrier, le professeur Marc Chevrier, a écrit un excellent texte là-dessus qui s'intitule « Le français langue infantile » que vous pouvez trouver en ligne. Si vous tapez « Le français langue infantile » Marc Chevrier, il fait un résumé de, tu sais, des origines intellectuelles de la loi sur les langues officielles. C'est fascinant. Puis ce qu'il démontre, c'est que Pierre-Éliott Trudeau s'est inspiré de Lord Acton, donc d'un penseur britannique, qui, lui, estimait que les peuples inférieurs, tu sais, devaient être... c'était un défenseur de l'Empire, dans le fond, comme formule politique. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'une association de peuples avec un peuple tutélaire puis des peuples inférieurs, puis les peuples inférieurs pouvaient progressivement se hisser au niveau des peuples supérieurs, dans ce cas-ci, le peuple anglais, dans une formule d'empire. Donc, s'ils étaient soumis à la concurrence, donc, s'ils sont soumis à l'épreuve de la concurrence, ces peuples-là, progressivement, allaient s'améliorer puis éventuellement allaient atteindre le niveau des peuples civilisés. Puis, le Canada a pris le relais de l'Empire britannique. Le Canada, en fait, c'est un modèle, tu sais, impérial où... les Québécois sont le peuple sous tutelle et les descendants des Britanniques sont le peuple tutélaire. Puis, on est soumis à l'épreuve de la concurrence par l'anglais, puis pour progressivement s'améliorer. C'est ça l'idée derrière la loi sur les langues officielles. Donc, c'est très important que ce ne soit pas un principe territorial parce qu'à ce moment-là, le Québec serait protégé puis il resterait dans sa médiocrité. C'est ce que pensait Pierre-Éliott Trudeau. Donc, ça a été fait exprès pour qu'il n'y ait pas de protection du français. C'était pour notre bien, selon lui, mais ce qu'on voit, ce que ça fait, c'est que le français, tu sais, hors Québec, il est à peu près disparu partout, sauf au Nouveau-Brunswick. Puis au Québec, le français est en train de basculer dans l'assimilation collective. Donc, le fait de ne pas avoir choisi une formule territoriale, ça mène à la situation actuelle où le français est en train de périr partout au Canada, dans le fond. Donc, moi, je pense que ça a été fait exprès par Pierre-Éliott Trudeau, qui est un homme politique qu'on ne pourra jamais assez détester, à mon avis.
En tout cas, vous avez fait des prévisions démo-linguistiques. Donc, si la tendance se maintient, comme disait Bernard de Rome, est-ce que le français passerait la barre des 50% au Québec? Ou est-ce qu'il va atteindre un seuil supérieur à 50%? Et s'il devait passer sous la barre des 50%, dans quelle échéance? À peu près dans combien de temps?
Ben, c'est déjà fait à Montréal. Hein? C'est déjà fait à Montréal. Puis Montréal, c'est le milieu d'intégration. Donc, je dirais, le Québec français est déjà minoritaire là où ça compte, vraiment. Donc, cette minorisation-là est déjà faite à l'endroit où, tu sais, on accueille les immigrants. Donc, je dirais, la vraie réponse à la question, c'est que c'est déjà le cas. On est déjà en dessous de 50% là où ça compte. Mais bon, pour répondre de façon peut-être... plus rigoureuse ou plus sérieuse, je ne sais pas. Les dernières projections des mots linguistiques faites par Statistique Canada datent de 2017, puis ils annonçaient 69% de francophones, langue maternelle, pour 2036. 69% pour 2036. Puis ils n'ont pas fait ça après, mais c'est dans ces projections-là, on sait que le français va chuter sans fin. Il n'y a pas de moment où la chute va s'arrêter, là. Puis à mon avis, la chute, plus le français va être faible, plus la chute va s'accélérer. Puis c'est ce qu'on voit dans les recensements. Puis ces projections-là ne tenaient pas compte. Tu sais, c'était avant l'explosion de l'immigration temporaire. Puis c'était avant l'augmentation de l'assimilation des francophones aussi. Puis c'était avec un taux de natalité un peu plus élevé. Donc, ces projections-là sont vraiment jovialistes et sous-estiment grandement, à mon avis, la chute du français. Donc, moi, je ne sais pas la date précise, là, mais ça ne va pas prendre Moi, je pense que ça ne va pas prendre 50 ans encore. Ça ne va même pas prendre 25 ans encore, à mon avis. Donc, à mon avis, ouais. la fenêtre...
On va le vivre, finalement.
Oui, moi, si j'ai un peu de chance, là, je vais le vivre dans ma vie. Un peu de chance. Je vais le vivre avant ma mort où le Québec français va être complètement brisé politiquement. Puis on n'aura plus le poids démographique nécessaire pour redresser quoi que ce soit. Ouais. Cette fenêtre-là, c'est la fenêtre où on peut changer le cours de l'histoire, est en train de se fermer, puis elle se ferme très, très, très vite. Là. Beaucoup plus vite que tout le monde pensait. Pour moi, c'est là, c'est le temps de prendre les choses au sérieux puis de le regarder en face. Parce que si on ne fait pas quelque chose maintenant, nos enfants vont nous en vouloir. Là. C'est ceux qui ne seront pas complètement assimilés puis qui vont avoir souvenir de ce qui aurait pu être. Mm-hmm. Ces enfants-là vont nous en vouloir. C'est parce que là, on va perdre quelque chose d'unique. Pour moi, il faut prendre la question au sérieux là, tout de suite. Là. Il faut faire quelque chose.
Justement, prenons-le au sérieux. Politique fiction, vous êtes le premier ministre du Québec. Quelle est la première mesure que vous mettez en place et pourquoi?
Quelle est la première mesure que je mets en place? Il y en a tellement là, à prendre.
La plus cruciale, disons.
J'ai été un défenseur de la loi 101 cégep. Là, ça fait des années. Là, je passe ça. Première journée, c'est mon premier décret. Je passe la loi 101 cégep, puis je fais pas la clause Canada, je fais la clause Québec là-dessus. C'est-à-dire que je me soumets pas à l'article 23 de la Charte canadienne pour l'accès aux études postsecondaires. C'est seulement ceux qui ont étudié en anglais au Québec, pas au Canada. Donc, je restreins la portée. Je restreins l'accès, en fait. Donc, je donne pas accès au cégep anglais aux Ontariens, par exemple, pour dire les choses simplement. La loi 101 au cégep, après ça, moi, je pense que la chose là, qui brûle, c'est le contrôle de l'immigration. T'sais, si on ne prend pas le contrôle de l'immigration, on sait qu'en 2023, il est rentré 217 000 personnes au Québec. Le taux...
Temporaire et permanent.
Oui, donc il y a eu 217 000 immigrants. Mm-hmm. Puis historiquement, au Québec, dans les années 70, il rentrait 20 000, 25 000 personnes. Bien sûr, là, la population est plus grosse, etc. Mais on est quand même à des taux presque 10 fois plus élevés que ceux des années 70. Donc, moi, je pense que la première mesure, la deuxième mesure à prendre, c'est vraiment le contrôle de l'immigration. Puis là, je pense qu'il faut, ça prend des gestes de rupture. Il faut arrêter d'attendre après Ottawa. Moi, je pense qu'il faut prendre le contrôle des frontières. C'est quelque chose d'existentiel. Là. Si on le fait pas, on sera plus là dans 10 ans pour en discuter politiquement. C'est-à-dire qu'on va politiquement à 220 000 personnes par année. Dans 10 ans, il va y avoir 2,2 millions de personnes de plus au Québec. T'sais, on va être rendu plus de 11 millions. Les francophones vont être quoi? Rendus pas loin du 50 %. Un référendum gagnant va être complètement hors d'atteinte.
Il y a un pourcentage assez élevé d'immigrants temporaires et permanents et réfugiés qui quittent là, dans les 5 ou 10 ans. Là, je ne me rappelle plus des chiffres, mais sur les à peu près 200 000 qui rentrent par année aujourd'hui, j'ai l'impression que dans les 10 ans qui suivent leur arrivée, la moitié quitte. Donc, ben, quand même,
moi, j'ai le souvenir que c'est à peu près les 3/4 qui restent. Mais tu sais,
j'ai pas les chiffres devant moi. Là.
Peu importe. Même si la moitié quitte, la 200 000, ça fait 100 000 de taux d'immigration net. Tu sais, c'est le double de ce qu'on veut. Puis ce taux-là, tu sais, c'est un des taux les plus élevés au monde. C'est ça aussi qu'il faut. Tu sais, on est tellement, en fait, ce que je trouve vicieux dans le débat sur l'immigration temporaire avec les chiffres vraiment démentiels qu'on a sous les yeux, c'est qu'on a normalisé un taux de 50 000 immigrants par année. 50 000 immigrants par année, permanent, ça a l'air d'un taux très raisonnable, alors que c'est comme le double du taux américain. Fait que, tu sais, on est même...
Toute proportion gardée, oui, bien sûr. Hein.
Toute proportion gardée. Puis on n'est même pas un pays, on n'a pas la culture la plus forte au monde pour intégrer. Donc, à 50 000 par année, c'est un taux démentiel. Fait que là, à 200 000 par année, j'ai plus de mots. Tu sais, on est dans... On pète toutes les séries, on est hors de tous les cadres. On n'a jamais vécu ça. on ne sait pas ce qui va se passer. Ben, on sait que ça sera probablement pas bon. Donc, le contrôle de l'immigration, pour moi, c'est... Il faut prendre le contrôle de l'immigration, puis il faudrait que le gouvernement du Québec le fasse par tous les moyens possibles, c'est-à-dire qu'il fasse un référendum sur l'immigration, qui va gagner, je pense. Puis là, si Ottawa refuse de nous céder le pouvoir, on y va pour un référendum sur l'indépendance.
C'est qu'il n'y a pas de précédent juridique à propos d'un référendum sur un sujet aussi spécifique que l'immigration au Canada, à ce que je sache. Puis il y en a peut-être eu. Il y avait eu sur les mesures de guerre avant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, mémoire. Il y avait des référendums, mais c'est tout, là, à ce que je sache.
Oui, mais tu sais, un référendum au Canada, c'est consultatif, c'est pas exécutif. Ouais, donc, en fait, c'est une mesure qui est vide de sens. Un référendum n'a pas de sens. C'est purement un acte politique. Donc, c'est pour établir un rapport de force politique. Mm-hmm. Puis. Ce qui fait défaut aux Québécois, c'est la confiance en eux. T'sais, on est tellement habitués de perdre que les Québécois ont largement plus de confiance en leur capacité de gagner quoi que ce soit. Je pense que un référendum sur l'immigration serait intéressant parce que je pense qu'il serait gagné haut la main. Puis à ce moment-là, la pression politique changerait de camp. Mais bien sûr, ça prend un gouvernement qui est déterminé. Puis là, on ne l'a pas. Le gouvernement de la CAQ, c'est...
Mais ils l'ont proposé.
Ils l'ont proposé, mais je disais...
Ils l'ont mentionné. Le PQ aussi,
Ils n'ont,
le Parti québécois aussi.
Ils n'ont aucune colonne vertébrale. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de détermination. C'est des mots. Moi, je ne vois aucune détermination de leur côté. Ce qui les intéresse, là, c'est les usines de batterie, puis le reste, donc, la prise du contrôle de l'immigration... T'sais, la loi s'en va au cégep et à l'université. Là, j'ai inclus l'université là-dedans. L'immigration, je ferais aussi une réforme de l'école. Je pense que la question de l'école, c'est une question qui m'inquiète beaucoup. Là. Il y a beaucoup de données qui nous indiquent que l'intégration des immigrants dans les écoles ne fonctionne plus. T'sais, ça fonctionnait légèrement avec la loi 101, mais là... ce qu'on voit, c'est que les francophones dans les écoles sont en train de disparaître dans toute la grande région de Montréal parce que l'immigration est tellement intense qu'il y a presque plus d'enfants nés au Québec. Nés au Québec, de parents nés au Québec. Donc,
Souvent, c'est la première génération nés au Québec, mais de parents immigrants.
Oui, mais tu sais... dans les études européennes, j'ai lu des études allemandes beaucoup où ils s'intéressent aux questions de... Par exemple, des résultats scolaires des immigrants dans les écoles allemandes. Puis eux autres, ce qu'ils ont trouvé, c'est que les premières et deuxièmes générations, c'est le poids des premières et deuxièmes générations qui avait un grand impact. Donc, c'est pas juste les enfants nés à l'étranger, mais c'est aussi les enfants nés dans le pays de parents nés à l'étranger. Donc, des gens qui n'ont pas atteint la maîtrise de la culture ou de la langue. Donc, ces enfants-là peinent à performer à l'école, etc. Donc, les impacts de l'immigration se vivent sur deux générations. Puis quand la proportion d'enfants de première ou deuxième génération est trop élevée dans une école, tous les résultats de l'école baissent, l'intégration se fait de plus en plus mal, etc. Donc, les Allemands ont mis ça en évidence. Puis je pense que c'est probablement vrai au Québec aussi. Puis là, ce qu'on voit, c'est que dans la grande région de Montréal, le nombre d'écoles où la proportion d'immigrants de première et deuxième génération dépasse de 80, 90, 95 %
Il y a la majorité, de loin.
Il y a un très grand nombre d'écoles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de milieu d'intégration dans ces écoles-là. Il n'y a plus... L'école, est dans la loi 101, est supposée être un milieu d'intégration dans la société majoritaire, mais la société majoritaire n'existe plus dans ces écoles-là.
Donc, on renverra aux articles, textes récents de quelques mois, je dis récents, mais ça date de quoi? Début 2024, de Jean-François Lisée.
Oui, Jean-François.
Une série de textes dans le Devoir sur à peu près ce que vous mentionnez. Puis il y avait eu le livre aussi de Arcos Verbucci, j'espère pas massacrer son nom, le Rhapsodie pour le Québec. Puis vous l'avez déjà, 10 ou 15 ans?
2016, oui, il en parlait.
10 ans, oui.
Arcos Verbucci en parlait. En 2016, mais lui, à l'époque, c'était Notre-Dame-de-Grâce. T'sais, c'était un quartier bien particulier. Tu avais un Québécois dans l'école ou par classe, puis la culture québécoise et la langue française étaient totalement méprisées. Lui, il en parle de façon décomplexée.
Mais là, ce qu'on voit, c'est que ces écoles-là, c'est partout dans la grande région de Montréal. Le Journal de Montréal aussi a fait des séries d'articles sur Vaudreuil-Dorion, par exemple, où ils mettent en évidence le fait que c'est l'anglais, la langue commune dans les écoles françaises, dans des écoles françaises de Vaudreuil-Dorion, c'est l'anglais. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que l'intégration par l'école est en train de capoter. Puis, on est en train de rejoindre l'Ontario. C'est-à-dire que dans les écoles françaises d'Ontario, la langue commune, c'est l'anglais. Dans les écoles de langue française, c'est l'anglais. Puis, le français, c'est la langue dans les cours, puis c'est tout. Puis là, ce qu'on voit, c'est que cette dynamique-là est en train de vraiment de nous exploser au visage partout dans la région de Montréal. Puis, donc, ce que moi, je vois, c'est qu'il n'y a eu aucune réaction de la classe politique à ça. C'est-à-dire qu'on fait comme si ce n'était pas là. Alors que ça invalide l'ensemble de notre politique d'immigration et de la politique linguistique, dans le fond, parce que si l'intégration par l'école ne fonctionne pas, ben, comment l'intégration va-t-elle se faire? C'était ça l'idée de la loi 101. Fait que là, ça veut dire que l'idée de base de la loi 101 n'est plus opérante. Ça veut dire aussi que les taux d'immigration sont excessifs, mais depuis longtemps, parce qu'on est en train de minoriser les francophones dans les écoles, ce qui fait qu'on sabote l'intégration des immigrants. Donc, c'est l'ensemble de la politique d'immigration et de la politique linguistique qu'il faut revoir de toute urgence. Mais ça, il n'y a eu aucun écho politique à ça. Fait que d'où la crise politique qu'on vit, en fait. Notre classe politique est dépassée par la situation. Mmh. Elle n'est pas capable de se mettre les yeux devant les trous puis de regarder les choses en face puis de dire, OK, si on veut survivre, il faut prendre action. Il faut avoir un portrait juste de la situation puis il faut prendre des actions. Il faut arrêter de faire des petites vidéos insignifiantes sur la langue française puis des choses comme ça. Il faut vraiment y aller pour des actions de fond.
C'est ça. Frédéric Lacroix, sur ce, bon de la fin. On a étiré un peu la dernière question, mais est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre là, que vous vouliez ajouter sur le sujet?
Ben, je pense que j'ai tout dit. Je pense que le message principal, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'action. Là. Il faut bouger. Parce que si on revient aux écoles, l'anglais qui est en train de devenir la langue commune dans les écoles un peu partout dans la grande région de Montréal, quand ces gens-là vont arriver sur le marché du travail, la situation va basculer complètement. Donc, on peut se dire, d'ici 10 ans, dans une dizaine d'années, l'anglais va devenir la langue de référence incontournable partout dans la région de Montréal, au travail, etc. Donc, il faut vraiment...
Et ça s'étend. Ça s'étend au-delà de Montréal de plus en plus.
Là. Oui, c'est ça. Donc, il faut prendre cette situation-là au sérieux. Je sais que c'est plaisant d'écouter ces petites séries qui se passent dans un monde virtuel, mais... Si on veut continuer d'exister, il faudrait regarder par la fenêtre la réalité qu'on a.
C'est peut-être la question de fond. Hein. Est-ce qu'on veut continuer d'exister? C'est un autre débat. Là, mais...
ouais. Alors, on aura la réponse à cette question assez bientôt, je pense.
Tout à fait. Frédéric Lacroix, merci beaucoup.
Merci.